Entre nous soit dit, une émission proposée par Fabrice Adjadj avec Olivier Rey. Au commencement était le Verbe. Il semble qu'à la fin, tout doive devenir nombre. Là où étaient les mots, les chiffres adviennent, ou les courbes, les cartes, les diagrammes qui en sont tirés. Lorsque ce qui était à même d'orienter dans la vie a été rongé par la critique, lorsque l'expérience individuelle n'est plus à la mesure des sociétés trop étendues, trop complexes et trop changeantes, les nombres deviennent les ultimes garants de la réalité et non seulement calibrent le monde, mais colonisent jusqu'à l'intime. On parle de « quantified self ». La santé n'est plus ce que l'on ressent, mais ce dont des mesures attestent. Et lorsque le col blanc, pour compenser ce que son existence postée devant un écran a de trop sédentaire et d'antinaturel, va courir le soir ou le week-end, son rapport au monde est tellement médiatisé par des nombres que, même en ce moment de détente où les facultés corporelles ataviques sont appelées à s'exprimer, il s'équipe d'un bracelet connecté interactif ou utilise une appli de son smartphone afin de comptabiliser le temps écoulé, les foulées, les battements cardiaques, évaluer les distances parcourues et l'énergie dépensée, dresser des diagrammes de performance, etc. Sans cela, il ne serait pas bien sûr d'avoir couru, les efforts fournis ne compteraient pas. Je commence cette émission en lisant une page du dernier livre d'Olivier Rey. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Quand le monde s'est fait nombre, un livre auquel vous travaillez depuis de nombreuses années sur un thème qui pourrait sembler complètement annexe, mais qui est devenu finalement un fait social total, la statistique, l'empire du nombre ou l'empire de la statistique. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est que vous parlez d'emblée du nombre, d'une nombrification du monde ou d'une quantification du monde, hein, tout est ramené à des chiffres, voire même tout est réduit à du numérique qui cherche à reconstituer le monde. Mais est-ce que le nombre, ça n'est que cela? Parce que le nombre a été pris aussi comme une forme, voire même une forme organique. Je pense à la poésie, qui est aussi le lieu d'un certain nombre. Claudel disait que le poète avait le double don de l'image et du nombre. Et même pour les pythagoriciens, les nombres n'étaient pas absolument parlant des quantités, ils étaient aussi des symboles. Est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer le nombre et la numérisation? Et est-ce que c'est bien le nombre qui est un problème dans votre réflexion?
Alors peut-être deux points. Le premier, c'est que je prends soin de distinguer nombrification, qui est un néologisme, ou bien, si on veut, quantification, et numérisation, parce que ce qu'on appelle la numérisation aujourd'hui, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec le nombre. En fait, numériser, qu'est-ce que c'est? C'est réduire à un code binaire, des 0 ou des 1. Et alors, comme ce sont des 0 ou des 1, et que 0 et 1 peuvent être considérés comme des nombres, on appelle ça une numérisation, mais en réalité, ce 0 ou ces 1, ça pourrait être des triangles et des rectangles, et est-ce qu'on parlerait de géométrisation du monde? Non. C'est-à-dire qu'en fait, là, le 0 et le 1 sont simplement les éléments d'un code binaire. Donc en fait,
signaler un circuit fermé,
c'est surtout pour rendre les données traitables par l'informatique qui fonctionne sur le mode binaire. Et donc quand on parle de numérisation, il faudrait beaucoup plus parler de binarisation en fait. Et donc c'est pour ça que la numérisation en soi, en fait, n'est pas quelque chose qui a à voir avec le nombre. Mmh. Donc déjà le nombre c'est différent de la le phénomène que de quantification dont je parle est quelque chose qui n'est pas totalement sans lien, mais enfin qui est différent de ce qu'on appelle la numérisation. Et puis la deuxième chose, c'est que le nombre dont je parle, c'est un nombre particulier. Vous avez tout à fait raison de souligner que ça peut avoir des sens tout à fait différents. Le nombre dont je parle, c'est le nombre qui apparaît aujourd'hui dans les statistiques numériques. Alors le titre du livre, c'est quand le monde s'est fait nombre, parce qu'il faut toujours trouver un titre qui essaye de suggérer le contenu du livre, mais enfin, qui ne peut pas non plus le préciser tellement. Moi, j'avais voulu qu'il y ait un sous-titre qui aurait été « Avènement de la raison statistique ». L'éditeur m'a dit que ça ferait plutôt fuir les lecteurs, donc on en est resté là. Mais ce dont il est question dans ce travail, c'est bien de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'avènement de la raison statistique. C'est le nombre de la statistique.
On pourrait effectivement entendre quand le monde s'est fait nombre, quand le monde s'est fait harmonie, quand le monde s'est fait rythme. C'est pour ça que je pensais à cela. Et à mes yeux, en tout cas à mes oreilles, la question du nombre est aussi une question fondamentale, musicale.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que je voulais... Alors justement, je voudrais reparler de ça. Vous évoquez au départ des sociétés primitives qui... Ne connaissent pas absolument parlant les dénombrements que nous pratiquons, nous. Vous parlez des pirayas qui n'auraient que le 1 et le 2, et puis au-delà, c'est plusieurs. Et puis des sociétés, donc on va jusqu'à 5, mais au-delà de 5, ça n'est plus qu'il n'y a plus que le mot pour dire beaucoup. À partir de quand commence le dénombrement? À partir de combien déjà?
En fait, d'un point de vue mathématique, si vous voulez, le nombre, à proprement parler en mathématiques, c'est quelque chose sur lequel on va opérer. On a l'impression qu'on a d'abord les nombres et qu'ensuite on va opérer sur les nombres. En réalité, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on se livre à certaines opérations que précisément les nombres vont véritablement advenir en tant que nombre.
Le nombre au sens arithmétique.
Voilà, c'est ça. Et donc c'est à partir du moment où on se met à additionner, à soustraire, à multiplier, à diviser que véritablement les nombres apparaissent.
Alors, l'emprise de la statistique n'est pas que, comme on en a parlé dans le fitness, hein, où on compte ses performances avec les machines pour compenser notre immobilisation par des machines ou par des écrans, mais aussi spécialement dans le domaine politique. Au début de votre ouvrage, vous parlez de cette phrase de François Hollande qui promet d'inverser la courbe du chômage. Et alors, l'enjeu n'est pas le chômage comme tel, vous le dites, mais la courbe. Et donc, toute la politique devient affaire de non plus de réalité, mais de se confronter à des chiffrages statistiques et à essayer de les infléchir pour augmenter sa propre cote, qui est aussi une statistique, à la limite.
Oui, tout à fait. Je l'ai pris comme exemple parce que on a beaucoup parlé de cette phrase, on y a vu l'habileté politique qu'il y avait derrière, parce que parler de l'inversion de la courbe du chômage, c'est d'une certaine manière ne pas parler du nombre des chômeurs qui, lui, ne cesse d'augmenter, à tel point que, si vous voulez, dans les 6 derniers mois du mandat, la courbe finit enfin par s'inverser. Il faudrait d'ailleurs plutôt dire son sens de variation, parce que la courbe, elle est ce qu'elle est. Donc, mais si le sens de variation de la courbe s'inverse dans les 6 derniers mois, ce sera présenté comme une réussite, alors même que dans l'intervalle, il pourrait y avoir 500 000 ou 1 million de chômeurs en plus. Donc là, il y a une très grande habileté politique. Mais ce qui n'a pas été remarqué, c'est déjà ce fait étrange qui est que dans l'espace public, on ne parle pas des chômeurs, mais qu'on parle de la courbe du chômage. Et donc, en fait, c'est comme si les chômeurs n'étaient plus que le corrélat de ce qui est la réalité ultime, qui serait la courbe du chômage.
De la même façon, la croissance, les chiffres de la croissance seraient la vérité de l'économie.
Oui, tout à fait. Et je prends cette comparaison, Nietzsche, au XIXe siècle, accusait la religion d'avoir engendré des arrière-mondes au nom desquels le monde dans lequel nous vivons aurait été dévalorisé et serait jugé à partir de ces mondes fictifs. Mais il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas, cette critique pourrait être encore bien plus à sa place si on remplace la religion par la statistique, parce que la statistique devient l'instrument de jugement d'absolument tout.
Alors, justement, la statistique devient l'instrument de jugement et en même temps, l'intelligence de votre ouvrage, je dirais même sa thèse la plus profonde, c'est de dire qu'il ne faut pas accuser la statistique comme telle. Elle n'est pas forcément la cause, finalement, de cette quantification du monde, mais plutôt un effet. Vous dites que c'est dans une transformation des modes d'être collectifs que la prégnance de la pensée statistique trouve son origine. C'est-à-dire qu'il a fallu que le feu statistique trouve un combustible et qu'il y a quelque chose, il y a eu une modification de la société. Vous insistez même pour dire que ça n'est pas une sorte d'emprise de la révolution scientifique quantitative sur la société qui est à l'origine de cela, puisque les pratiques statistiques se développent d'abord à partir du champ politique, économique, social, et que c'est à partir de ce champ-là qu'elles vont coloniser les sciences, et c'est même assez tardif, finalement, l'entrée des statistiques dans les sciences contemporaines. Alors, si la statistique n'est pas le mal, quelle est la source de cette quantification ?
Oui, exactement. Là, vous avez résumé tout à fait quelque chose qui a été essentiel dans mon travail. C'est qu'aujourd'hui, que la statistique est devenue une discipline mathématique et une méthode très largement employée dans les sciences de la nature, on a tendance à imaginer que l'emprise des statistiques dans notre vie quotidienne vient d'une application des méthodes scientifiques au traitement des affaires humaines. Mais quand on regarde historiquement comment les choses se sont passées, on s'aperçoit que la démarche statistique a commencé à se développer dans le traitement des affaires humaines et que ça n'est que secondairement que c'est entré dans l'arsenal des méthodes des sciences de la nature et encore plus tardivement que les mathématiques s'en sont emparées pour vraiment la formaliser. Alors il est certain qu'aujourd'hui que la statistique a été formalisée mathématiquement et d'un très large usage dans les sciences de la nature, elles peuvent en tirer une autorité supplémentaire, mais n'empêche que leur origine n'est pas là. La deuxième chose dont je suis rendu compte, c'est que l'explosion de la statistique n'est pas si récente que cela. Elle n'est pas non plus, elle remonte pas à un lointain passé. Elle remonte à la première moitié du 19e siècle. C'est vraiment au cours de la première moitié du 19e siècle que la mentalité statistique explose et qu'il y a une avalanche de nombres imprimés qui va déferler sur l'Europe.
Et vous parlez de la date de 1820.
Oui, c'est 1820-1830, c'est à peu près cette période-là. Et alors donc j'ai essayé de comprendre pourquoi justement à cette époque, c'était à ce moment-là que ça se produisait. Et en fait, j'ai relié cette explosion statistique à deux révolutions qui ont commencé à se produire quelques décennies auparavant. D'une part, la révolution industrielle, qui a son foyer en Angleterre, et d'autre part, la révolution politique, qui a explosé de manière particulièrement vive en France, mais qui s'est également propagée à toute l'Europe. Et l'effet de ces deux révolutions, ça va être d'accélérer un processus qui était déjà en cours, mais bon, assez lent. Et là, véritablement, on va avoir un changement, une accélération très très brutale. Un changement qui va faire très vite, qui va démanteler toutes les anciennes, une à une, toutes les anciennes structures communautaires, pour libérer une sorte de matière première à l'état brut qui sont les individus. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où les individus sont désaffiliés de leurs anciennes communautés d'appartenance, ils vont tous ensemble créer une chose qui est inédite dans l'histoire de l'humanité, qui sont les grandes sociétés d'individus. Et là, à ce moment-là, les hommes vont se retrouver confrontés à quelque chose qu'ils n'avaient jamais expérimenté par le passé, quelque chose de tout à fait inédit, qui sont ces grandes sociétés d'individus. Ferdinand Tönnies, au XIXe siècle, a écrit un grand livre de sociologie qui s'appelle « Gemeinschaft und Gesellschaft », « Communauté et société ». Et justement, il décrit ce qui se passe à l'époque contemporaine. Il voit le phénomène essentiel de l'époque contemporaine comme le passage d'une forme de vie communautaire à une forme de vie sociale.
Oui, Ferdinand Tönnies a cette phrase d'ailleurs. Selon la théorie de la société, celle-ci est un groupe d'êtres humains qui, comme dans la communauté, vivent et demeurent pacifiquement les uns à côté des autres, mais qui, au lieu d'être essentiellement liés, sont au contraire essentiellement séparés. Et alors que dans la communauté, ils restent liés en dépit de tout ce qui les sépare, dans la société, ils restent séparés en dépit de tout ce qui les lie. C'est-à-dire que la communauté a toujours cet ancrage, on pourrait dire, naturel dans la famille, alors même qu'on serait en rupture avec ses frères, il n'en demeure pas moins qu'on reste frère, alors que la société, comme elle se constitue à partir d'un contrat passé entre des individus, finalement, alors même qu'on s'associe comme contrat, on a un soubassement qui est celui d'une séparation originelle.
Bah, la formule par laquelle j'aime bien résumer le basculement, c'est que, disons, dans l'ancien monde, « je » était le singulier de « nous », alors que dans le nouveau, « nous » est le pluriel du « je ». C'est-à-dire qu'auparavant, la personne existait, les individus existaient, mais ils existaient en tant que membres d'une communauté. Enfin, deux communautés au pluriel d'ailleurs. Évidemment, la première communauté étant la famille, mais il peut y avoir le village, la paroisse, la corporation, l'ordre, enfin, etc. Et c'était en tant qu'on était membre de ces entités que c'est à l'intérieur de ces entités qu'on s'individualisait. Alors qu'à partir d'un certain moment, 17e, 18e siècle, en philosophie, il va y avoir l'idée que la matière première, c'est l'individu, et que les groupes humains ne sont jamais que des rassemblements d'individus. Et c'est là d'ailleurs où il va y avoir ces imaginations d'un état de nature où les individus sont isolés, et c'est seulement dans un second temps qu'ils vont se décider de vivre ensemble pour en tirer un certain nombre d'avantages, parce que la vie en société, finalement, va être plus avantageuse que la vie à l'état isolé. Par exemple, chez Hobbes, parce que quand on est à l'état isolé, on est toujours dans une vie précaire, et donc les hommes vont se regrouper, et ils vont pour cela passer un contrat, parce que justement, l'ancien sens du mot société, en fait, avait un sens en latin, ça avait un sens particulier, ça ne désignait pas n'importe quel groupe humain, mais c'était un groupe humain qui se constituait toujours autour d'un intérêt partagé et qui était régi par un contrat. Et c'est exactement ce sens-là qu'on retrouve encore aujourd'hui dans l'idée de société commerciale. Voilà, et en fait, ce mot société s'est mis à désigner l'ensemble des collectifs humains dans la mesure où on a conçu précisément les groupes humains comme étant des individus a priori isolés qui se lient par un contrat. D'une certaine manière, un contrat social, il y a une forme pléonastique, puisque toute société, d'une certaine manière, se conçoit comme un regroupement sous les termes d'un contrat.
La société, dans l'usage du mot société pour désigner finalement la communauté dans son ensemble, c'est très récent, ça vient du XVIIe siècle.
Finalement. Voilà, oui, c'est à ce moment-là que ça commence. Et on le voit de manière très nette dans les dictionnaires, en fait. Dans les dictionnaires, encore à cette époque-là, on voit vraiment société où les dictionnaires indiquent bien encore que c'est un lien entre humains qui est régi par un contrat. C'est un regroupement toujours délibéré. C'est pas quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui est délibéré. Ça implique toujours un engagement, une décision. Et à partir du moment où précisément les philosophes vont se dire « mais oui, c'est au principe de tous les regroupements humains », à ce moment-là, du coup, on va appeler tout groupement humain une société.
Et alors, vous l'aviez suggéré là, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus. D'une certaine façon, dans la pensée antique, dans la pensée médiévale, l'individu est le terme. Alors, vous dites que c'est le terme d'une opération logique, puisque on divise en genre, en espèce, et l'espèce elle-même...
En variété, sous-variété.
Voilà, et puis on arrive à l'individu qui est celui qu'on ne peut plus subdiviser.
Qu'on ne peut plus diviser, oui.
Mais je pense... pas simplement du point de vue logique, mais même du point de vue existentiel, par exemple, savoir qui je suis, avoir mon identité comme individu, c'est au terme d'un parcours. Le chevalier mène une aventure pour recevoir son titre, et même au terme de la vie chrétienne dans l'Apocalypse, au vainqueur est donné un caillou blanc avec un nom nouveau, c'est-à-dire que tout d'un coup, il est là, ressaisi dans une individualité. Et la modernité pose au contraire l'individualité comme le point de départ. On commence par être des individus. Mais c'est une, ce que vous, vous affirmez, c'est que c'est en fait une construction sociale.
Ah bah ça, c'est la grande thèse de Durkheim, hein, qui sera énoncée à la fin du 19e siècle. Il dit c'est les gens ne se rendent pas compte qu'ils reçoivent de la société la conviction qu'ils précèdent la société. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que c'est la société qui implante dans les individus l'idée qu'ils en sont indépendants. Il est clair que notre conscience aujourd'hui d'individus indépendants de la société est totalement relative à un certain état de la société, qui est un état très paradoxal.
Alors, cette apparition de la société, donc comme collection d'individus, comme des individus reliés entre eux par un contrat, c'est cette vision de la communauté finalement constituée comme une société qui va permettre le déploiement de la pensée statistique, parce que si je vous suis bien, à partir du moment où la personne n'est plus considérée comme liée à des appartenances, à une communauté naturelle, finalement à des noms propres, à des qualités, à partir du moment même où on ne va même plus parler de nature humaine commune ou d'appartenance commune, il n'y a plus que des individus, et ces individus, puisqu'ils n'ont rien de commun entre eux, naturellement, eh bien, on ne peut plus opérer ou penser ce qu'ils sont ou ce qui leur advient qu'à partir d'une pensée qui fait des collections de faits et qui
des
fait
sommations,
des sommations, des rapports statistiques.
Oui, tout à fait. Et en fait, le développement statistique va correspondre à deux choses. D'abord, une possibilité et un besoin. À partir du moment où, justement, l'unité de base devient l'individu, eh bien, précisément, on peut compter. Alors qu'auparavant, ça n'aurait eu aucun sens, puisqu'on n'avait pas directement accès aux individus, on avait toujours accès à des corps constitués. Alors que là, la matière première étant les individus, eh bien, ça se prête effectivement à la statistique. Et par ailleurs, il se trouve que, comme je l'ai dit, on se retrouve face à une réalité totalement inédite dans l'histoire. On ne sait absolument pas, on ne sait absolument plus à quoi ressemble le monde humain. Donc on a un besoin absolument térébrant de repères à l'intérieur de ce nouveau monde. Et à ce moment-là, il va y avoir aussi une appétence énorme pour la statistique en tant que source de renseignements sur ce monde dans lequel, au sein duquel on ne sait plus se situer.
Mais alors, on pourrait dire que paradoxalement, l'emprise de la statistique s'est faite parce qu'on a affirmé l'unicité de chaque personne. Est-ce que c'est pas de dire, si on dit chacun est unique, il n'a plus de rapport avec son origine, avec sa généalogie, on peut pas le rapporter à une espèce humaine, on ne peut pas le rapporter à une nature humaine. Chacun est vraiment unique dans sa liberté. Affirmation d'ailleurs qui semble chrétienne. Eh bien, c'est la porte ouverte à une lecture presque exclusivement statistique. On ne peut plus faire que des listes et des sommes et des pourcentages.
Ah bah, si on considère qu'effectivement, fondamentalement, nous sommes totalement incommensurables les uns aux autres, la seule chose auquel on peut encore s'en remettre pour dépasser simplement l'incommensurabilité de chacun, c'est s'en tenir à des quantités qui, elles, sont les seules choses commensurables. Donc, effectivement, c'est ça le paradoxe, mais c'est que l'incommensurabilité de chacun des êtres amène finalement à n'être plus sensible en eux que ce qui est malgré tout commensurable, c'est-à-dire les choses mesurables.
Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de penser l'unicité comme ce qui advient au terme de toute une série, d'une pyramide d'appartenance, voilà, et même d'une aventure personnelle, on la place au départ, mais en la plaçant au départ, eh bien, d'une certaine façon, il y a de l'incommensurable, mais on a tendance aussi à entrer dans un rapport uniforme, c'est-à-dire que chacun devient le pur individu séparé des autres, mais il n'a plus de visage, parce qu'il n'a plus de caractère ethnique, il n'a plus de ressemblance avec ses parents, il n'y a plus d'appartenance, donc ça devient aussi le règne des smileys, quoi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, puis là, il y a aussi derrière la question de la confusion des ordres. C'est-à-dire, comme vous disiez, le christianisme reconnaît cette part d'incommensurable qu'il y a entre les êtres. Sauf que malgré tout, cet incommensurable trouve une forme de résolution en Dieu, d'une part. Et puis deuxièmement, on peut dire que si on considère l'ordre des corps, l'ordre des esprits, l'ordre de la charité, il y a une forme d'incommensurabilité au niveau des âmes. et encore d'ailleurs, on pourra en discuter, mais en fait ça laisse aussi tout le reste dans le domaine, du commensurable, alors que là en fait on a une sorte de radicalisation de l'incommensurabilité qui, d'une certaine manière paradoxale, mais revient sur nous, va imposer le règne du quantitatif. Hein.
Oui, donc la statistique, c'est la mesure de l'incommensurable, quoi, finalement, c'est le dernier recours.
C'est le dernier recours pour encore concevoir la coexistence
de particules,
ouais.
Alors, on a parlé du 19e siècle, et on voit bien que ces théories du contrat, de la société, ont quand même des origines beaucoup plus lointaines. Mais est-ce qu'il y a un moment...
Si je peux juste introduire un mot, en fait, effectivement, ça a des origines philosophiques antérieures. Mais en fait, ce qui va faire qu'au XIXe siècle, ça va prendre de telles proportions, c'est que bon, la philosophie, c'est une chose, mais la philosophie ne transforme pas à elle toute seule la société. Et c'est pour ça que pourquoi ça se produit au XIXe siècle, c'est que d'une part, il y a ces conceptions philosophiques qui ont incubé, et puis d'autre part, ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire la révolution industrielle et la révolution politique qui vont, dans les faits, faire exploser les anciennes communautés. Et donc, en fait, qui vont créer le cadre matériel, si on veut, où les théories philosophiques qui avaient été énoncés auparavant vont trouver un monde qui leur correspond.
Donc la révolution politique, parce que à travers des choses comme la loi Le Chapelier ou
qui est la caricature de cela, quoi. Oui, c'est-à-dire la loi Le Chapelier, c'est de dire qu'il ne doit y avoir rien ne doit s'interposer entre l'État et les individus.
Voilà, c'est ça, et qui prétend donc libérer les individus des appartenances familiales, du piège, des corporations, etc. Donc tous les corps intermédiaires sont supprimés, et il n'y a plus que des individus face à un État, hein. c'est le principe du jacobinisme aussi. Et puis de l'autre côté, la révolution industrielle, qui fait que, parce que vous n'avez pas signalé comment ça se faisait dans la révolution industrielle, c'est-à-dire le fait peut-être que la production n'étant plus une production familiale, n'étant plus une production où la famille aussi est le lieu aussi de l'économie, mais où chacun étant enrôlé individuellement dans une grosse machine, ça fait éclater la famille, nous ne sommes plus que des individus pris par le capital, comme le montre d'ailleurs très bien Marx.
Ce qui s'est passé, encore une fois, l'Angleterre a été le précurseur dans ce domaine-là. En Angleterre, il y avait beaucoup d'artisanat qui était pratiqué dans les campagnes. Et en fait, les artisans, c'était des gens qui habitaient une maison, qui avaient un petit lopin de terre autour. En plus, il y avait également des commons, des terres communes. Et puis, par ailleurs, avaient une activité artisanale qu'ils vendaient à des négociants. Et en fait, si vous voulez, il y avait une sorte d'équilibre entre la production familiale, locale, de l'essentiel de la nourriture, et puis on mettait un peu du beurre dans les épinards, si on veut, avec la production artisanale. Et puis quand une année était mauvaise, pas à cause de la météo, eh bien peut-être qu'on pouvait davantage travailler à filer la laine, et réciproquement. Enfin bon, il y avait une sorte d'équilibre comme ça qui se produisait. Et puis après, en Angleterre, il y a eu à un moment donné une appropriation des terres par les grands propriétaires. Et donc à ce moment-là, les artisans ont complètement perdu l'appoint ou la sécurité que leur donnait la production alimentaire familiale. Et donc à ce moment-là, s'il y avait des retournements de conjoncture, comme il s'en produit toujours, on le sait très bien dans les systèmes économiques, à ce moment-là ils étaient réduits à la famine, et à ce moment-là ils s'émigraient vers les villes pour essayer de trouver du travail. Et c'est comme ça que c'est créé ce grand prolétariat déraciné qui devient complètement dépendant du travail salarié.
Mais c'est aussi le machinisme, parce que vous ne le mentionnez pas. Marx, par exemple, insiste sur le fait que la machine n'exige plus de savoir artisanal, qualifié, et qu'elle enroule indifféremment les hommes, les femmes et les enfants, et qu'à partir de ce moment-là, tout le monde peut entrer dans l'armée industrielle, de telle sorte que la famille est aussi disloquée de ce point de vue.
Certes, mais en fait, Polanyi, à mon avis, à juste titre, insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'on a un peu trop insisté peut-être disait dans la lignée marxiste sur l'apparition de, enfin sur le rôle déterminant joué par la machine à vapeur. Puis, bon, évidemment, ça a eu un grand rôle, mais ce que dit Polanyi, c'est que le grand bouleversement, en fait, finalement, a une origine antérieure. C'est que c'est déjà, en fait, la première machine, ça a été l'être humain. Il y a un texte absolument extraordinaire, d'ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle, de Charles-Augustin Coulon, qui était aux Antilles et qui voulait de faire construire un fort. Et il cherchait à optimiser le rendement des ouvriers. Et alors donc, en fait, il voyait, par exemple, il y avait des ouvriers qui devaient transporter des pierres. Alors certains sur une distance horizontale pour les amener à l'endroit où le fort devait être construit. Et puis d'autres devaient les transporter sur un trajet vertical pour les élever en haut des murs. Et en fait, Coulon a fait des calculs très précis en observant les gens et en leur demandant de porter des charges différentes pour voir quelle était la charge optimale que devait transporter un ouvrier pour transporter la masse la plus grande en une journée de travail, soit horizontalement, soit verticalement. Et donc là, en fait, on voit que Coulon raisonne sur l'homme en tant que machine. Et ce que dit Polanyi, c'est que si la machine à vapeur a pu s'imposer, c'est que déjà, on avait eu une organisation machinique de la manufacture. Et donc, d'après Polanyi, c'est déjà la manufacture qui transforme les choses. Dans la manufacture, il y a déjà des machines, ce sont les êtres humains.
Alors, vous avez dit, c'est cette double révolution politique et industrielle qui a permis l'incubation, qui a amené l'empire du nombre, de la statistique. Mais il y a un arrière-plan philosophique, et à un moment donné, quand même, alors vous ne consacrez pas un chapitre complet à cela, mais vous évoquez une révolution qui se joue autour du XIIIe, XIVe siècle, et notamment liée au nominalisme et à Guillaume d'Ockham. Alors, c'est parce que mon idée, hein, c'est que l'apparition de l'individu ou de l'homme comme pur individu, c'est quelque chose qui serait lié déjà à une certaine forme de théologie, peut-être même de théologie du salut. Hein, le salut étant tellement personnel et n'étant pas, et avec le protestantisme apparaissant de moins en moins comme ecclésial, mais comme vraiment une transaction de l'individu avec Dieu, quoi. Hein, dès lors, on ne voit plus la dimension collective du salut, communautaire du salut, et peut-être que ça, c'est un des fondements de l'individualisme. Mais alors, avec Ockham, on sait que Ockham, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit contre la tyrannie, et que d'une certaine façon, pour empêcher le pouvoir tyrannique, c'est un franciscain, hein, il insiste sur le caractère irréductible de l'individu, sur sa liberté individuelle, sur son libre arbitre. Et puis, il va en arriver à l'idée que justement, l'individu est d'une certaine façon incommensurable à toutes les idées que pourrait en avoir un tyran, ou tous les projets que pourrait faire le tyran sur lui. Et donc, il y aurait quelque chose qui se joue dès cette époque.
Ah oui, je pense effectivement, et puis là je pense que, enfin bon là, je ne suis pas du tout Ockham sur ce terrain-là, parce que je pense que les communautés sont beaucoup plus à même de résister à la tyrannie que des sociétés d'individus, justement, parce que l'individu face au tyran, tout seul, il ne peut rien faire, justement. Et en fait, on l'a bien vu, par exemple, je ne sais pas, en Union soviétique, précisément, pour qu'un tel régime tyrannique puisse s'exercer, il fallait précisément complètement défaire toutes les communautés naturelles, jusqu'à s'immiscer dans les familles. Donc,
c'est ce qu'on voit dans 1984, c'est ce que montre aussi Hannah Arendt en disant qu'il y a un lien entre l'isolement de l'individu et la massification.
Exactement, oui, tout à fait. Donc je pense qu'on peut être tout à fait contre la tyrannie, mais penser que ce n'est pas du tout l'individu qui est le garant, enfin qui est ce qui va nous protéger de la tyrannie.
Mais en même temps, ce règne de la quantité, finalement, hein, qui va se déployer à partir de l'Europe, c'est ça aussi ce qui va faire, vous reprenez là-dessus une thèse d'Alfred Crosby, aussi sa capacité d'expansion, Parce qu'après après tout, si on n'est que dans un monde de tradition, de qualité, eh bien on est forcément enraciné dans une généalogie, dans un lieu, avec les ancêtres. Et la quantité est justement une manière de neutraliser complètement le monde des qualités, d'avoir un discours qui s'applique à tous les lieux, à tous les temps. Et la revendication de l'universalisme moderne serait profondément liée à cette possibilité d'une quantification qui est complètement déraciné.
Ah bah oui, c'est comme ça que les Occidentaux ont pu exporter leur mode de vie un peu partout sur la Terre. Crosby, il s'était interrogé sur ce qui avait fait le succès des Européens dans leurs entreprises de colonisation de la Terre. Alors, un de ses premiers arguments qui est assez intéressant, c'est un argument biologique, c'est-à-dire que les Européens... En fait, sur leur continent qui était en communication avec l'Asie, avec l'Afrique du Nord, etc., en fait, vivaient dans un lieu où ils avaient été exposés à énormément de maladies, de virus, de microbes, etc. Donc, ils avaient développé énormément de résistance à un très grand nombre de maladies. Par exemple, quand ils sont arrivés en Amérique, la colonisation de l'Amérique, elle est essentiellement due au fait que les natifs d'Amérique sont, pour l'essentiel, morts de maladies. Les conquistadors n'ont pas fait du tout de massacre. Et s'il y a eu des morts en masse des Indiens d'Amérique, c'est d'abord pour des raisons sanitaires. C'est-à-dire que, par exemple, ils ne connaissaient pas la rougeole, et quand les Espagnols sont arrivés, eh bien, en fait, la plupart des Indiens sont morts de la rougeole.
Et donc, c'est que les Européens ont conquis avec leur écosystème bactérien.
Voilà, c'est ça, exactement. Et en revanche, la colonisation européenne a très mal marché dans les zones tropicales et en Asie, parce que précisément, là, ils n'avaient pas du tout cet avantage. Mais Crosby dit, évidemment, ça ne suffit pas. Et une des choses sur laquelle il insiste, c'est que les Européens, précisément, avaient un mode d'organisation qui était exportable et qu'on pouvait mettre en œuvre dans des environnements extrêmement divers. Et il lit ça justement à ce rapport quantifié au monde qui, précisément, du coup, où qu'on aille, on peut toujours mesurer, on peut toujours quantifier. Et donc, en fait, l'Européen, finalement, peut aménager n'importe quel environnement.
En même temps, il y a une autre forme d'universalité qui se déploie à partir de l'Europe, c'est celle du catholicisme. De certaine façon, il y a aussi une entreprise missionnaire, et on a l'impression que, comme si le démon avait voulu doubler, parce que l'entreprise missionnaire part justement cette emprise quantitative, c'est-à-dire qu'en même temps que les missionnaires partaient pour annoncer le Christ, arrivait aussi l'Europe de la quantité, quoi. Et donc il y aurait cette double phase de l'universalité qui serait partie de l'Europe, quoi.
Oui, ben là, on pourrait dire, alors bon, je ne veux pas dire trop de mal des Anglais, il y a beaucoup d'Anglais que j'aime beaucoup, et j'aime aussi l'Angleterre, mais enfin, on peut quand même voir un symbole de cela dans l'expédition franco-anglaise ou anglo-française, plus exactement, qui a eu lieu en Chine au 19e siècle, où en fait, il y a eu un corps expéditionnaire qui a été envoyé en Chine, qui s'est comporté de manière assez épouvantable, et c'est là où il y a eu le sac du palais d'été. Et en fait, pourquoi les Anglais sont allés en Chine ? Eh bien, c'était pour vraiment des raisons économiques, parce qu'ils voulaient avoir accès au marché chinois. Et pourquoi Napoléon III a joint des troupes françaises à cette expédition britannique ? Eh bien, c'était parce que certains jésuites missionnaires français avaient été martyrisés de manière particulièrement terrible par des Chinois, et que donc, pour satisfaire l'opinion catholique en France, qui avait été extrêmement choqué par ces jésuites mis à mort en Chine, avait joint un corps expéditionnaire. Et donc là, on voit véritablement, d'un côté l'économie et de l'autre côté le catholicisme dans cette expédition.
Alors, je voudrais qu'on arrive à un autre aspect de votre ouvrage, c'est qu'il y a un très beau chapitre sur les statistiques et la littérature, ce qui est un chapitre très original, un peu inattendu, parce que, d'une certaine façon, vous montrez que le roman moderne naît dans ce contexte de la statistique. C'est à partir du moment où s'effondre une société avec, on pourrait dire, des types humains bien marqués, avec même, on pourrait dire, des castes, avec des appartenances. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que toute la littérature médiévale est profondément marquée par des archétypes. C'est à partir du moment où tout cela s'effondre qu'apparaît l'individu. Et l'individu est précisément le sujet du roman naturaliste. Et d'une certaine façon, vous vous incitez pour dire qu'il y a une contemporanéité du développement de la statistique et du roman, alors je ne dis pas tout de suite naturaliste, mais enfin de tous ces romans qui vont essayer de faire des physiologies de la société contemporaine, les tableaux de Paris, les populations de France. Et même, vous dites que la comédie humaine de Balzac entretient un rapport profond avec le développement de la statistique.
Oui, alors, bon, pour ce qui est du roman moderne, c'est un peu comme pour la statistique, c'est-à-dire que pour la statistique, c'est dans la première moitié du 19e siècle que vraiment elle explose, mais elle avait commencé auparavant. Dès la fin du 16e siècle, on voit des choses qui apparaissent, se développent au 17e, 18e, et c'est vraiment au début du 19e siècle que ça explose. On pourrait dire exactement la même chose pour le roman moderne. Hein, si on prend comme premier roman moderne Don Quichotte, bon, on voit que ça remonte à... C'est relativement ancien, mais c'est véritablement au 19e siècle que le grand roman européen va connaître l'expansion absolument extraordinaire.
D'ailleurs, Don Quichotte est le roman du passage de l'archétype du chevalier à l'individu Quichotte banal, numéro de la société.
En fait, comme je disais, au début du 19e siècle, on se retrouve dans un monde tellement bouleversé que finalement, la plupart des personnes qui habitent ce monde ne savent absolument plus se reconnaître dans ce monde, ne savent plus se situer dans ce monde. Donc, il y a un très grand besoin d'informations, d'éléments qui vont nous permettre de nous repérer à l'intérieur de ce monde. Alors, une des réponses, ça va être la statistique, qui précisément, à partir de ce chaos des individus, va par les mesures quantitatives faire apparaître de nouvelles choses. Par exemple, les anciennes castes d'Ancien Régime ont disparu, mais les statistiques vont faire apparaître les classes sociales. Simplement à partir de données quantitatives, de revenus, de choses comme ça. C'est-à-dire qu'a priori, on met tous les individus les uns à côté des autres.
Mais il y a une hiérarchie chiffrée qui est celle des revenus.
Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, la classe sociale, qui n'avait pas de sens auparavant, va s'imposer comme une catégorie absolument essentielle au 19e siècle. Mais sans les statistiques...
purement monétaire.
Sans la statistique, on n'aurait guère pu parler de... Enfin, on ne tient pas assez compte du rôle qu'a joué la statistique dans l'émergence d'une notion comme la classe sociale. Et puis, par ailleurs, va se développer toute une littérature. Il faut bien voir qu'à cette époque-là, les sciences sociales ne sont pas encore constituées. Elles vont se constituer précisément au 19e siècle pour essayer également de donner des repères, d'essayer de comprendre ce nouveau complexe social. Mais les sciences sociales ne sont pas encore constituées. Et dans un premier temps, la littérature va assumer une partie de ce rôle qui sera ensuite dévolu aux sciences sociales. Il ne faut pas oublier que le premier nom qu'avait donné Balzac à la comédie humaine, c'était études de mœurs, études sociales. Mmh. Et donc, en fait, là, dans la littérature avait aussi une visée de connaissance. Hein. C'était pas, il y avait cette visée de connaissance. Alors, au début du 19e siècle, c'est développé toute une littérature panoramique qui cherchait à décrire ce nouveau complexe social. Et Balzac, d'ailleurs, lui-même, a pas mal collaboré à cette littérature panoramique. Mais Balzac s'est très vite rendu compte que cette littérature était très insuffisante parce que, précisément, elle essayait de recréer des types à l'intérieur d'un monde où ces types n'étaient plus vraiment pertinents. Hein, on décrivait le joueur de boules, le tyran d'estaminet, l'épicier, etc. Alors on pouvait la femme trompée, la portière, la concierge, l'ouvreuse de théâtre, etc. Mais on juxtaposait comme ça des types. Et en fait, Balzac se rendait compte que cette littérature était très insuffisante parce que d'une part, elle ne laissait de côté la réalité première qui était l'individu. Et d'autre part, en fait, elle n'arrivait pas à saisir la société comme une, puisque finalement, on aurait pu juxtaposer comme ça à l'infini les types sans jamais faire apparaître d'unité. Et c'est là que va naître le grand projet de la comédie humaine, qui veut rendre compte à la fois de l'existence individuelle, Et c'est pour ça que Balzac écrit des romans avec des personnages extrêmement différenciés. Mais en même temps, il veut rendre compte du fait que tous ces personnages habitent dans une société. D'ailleurs, il écrit souvent « société » avec un S majuscule. Et pour ça, c'est pour ça que ces romans ne sont pas des romans qui sont juxtaposés, mais des romans qui, tous ensemble, vont constituer la comédie humaine. Et un des procédés qu'il a employé pour vraiment signifier ce fait que tous ces personnages différents vivaient dans une seule société, c'est les personnages récurrents
qui reviennent
entre les romans. Et le jour où il a eu cette idée-là, il est allé chez sa sœur Laure en disant « je vais devenir un génie ».
Mais donc c'est ça, c'est-à-dire qu'à la fois Balzac lit des études statistiques, il est conscient qu'on est passé de cette communauté d'ancien régime, pourrait-on dire, à un monde où les individus ont été isolés, pour être affaiblis, pour être dominés.
Il ne cesse de le répéter.
Il le répète souvent, mais en même temps il prend acte de cela, c'est pas un simple homme de la nostalgie,
non,
il prend vraiment acte de cela, mais ce qu'il essaye de montrer, c'est à nouveau un organisme, une organicité quand même de la vie. Donc il lutte, il réintroduit, on pourrait dire, un aspect, je dirais, de communauté à l'intérieur de cette société.
Oui, oui, tout
communauté de destin, peut-être, communauté qui se fait à l'insu même de tous ceux qui ont essayé de construire cette société.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est passionnant de voir que Balzac pressent déjà, enfin même pense à l'intérieur de son œuvre, ce que les sociologues patentés penseront après lui, c'est-à-dire que la société a une vie autonome, enfin que ça n'est pas justement simplement une juxtaposition d'individus, mais qu'il y a une réalité de du niveau social.
Mais ça, c'est Balzac. Aujourd'hui, on a l'impression que on a d'un côté donc le quantified self, le règne de la statistique, même pour décrire les phénomènes de sa santé, de son fitness, et en même temps, de l'autre côté, on a la série américaine qui nous présente aussi des individus pris dans des histoires complètement individuelles. Et il y a une sorte de complicité, vous ne croyez pas, entre ce dispositif, la statistique et l'anecdotique de la série américaine. Le jeu où il n'y a plus que des individus et d'une certaine façon, il n'y a plus de discours qui essaierait de porter sur l'humain en général, sur ce qui n'essaierait plus, comme dans la philosophie antique, de dégager aussi, pas simplement des invariants éventuellement statistiques, mais aussi une nature, et d'avoir un discours, je dirais, rationnel sur l'humain.
Bah, oui, mais en même temps, il y a une ambiguïté chez Balzac, c'est que d'un côté, il s'affronte véritablement à la société dans son ensemble, au monde dans son ensemble, mais on peut se demander malgré tout dans la comédie humaine si ce qu'il nous montre, c'est vraiment, véritablement le monde ou le monde de Balzac. Et en fait, quelquefois, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la mystification chez Balzac, c'est-à-dire que l'organicité, c'est plus l'organicité balzacienne que l'organicité du monde qu'il nous donne à vivre. J'aime bien comparer Balzac à la Chartreuse de Parme, ou le début de la Chartreuse de Parme, où Fabrice Del Dongo veut participer aux guerres napoléoniennes. Il se retrouve sur le champ de bataille de Waterloo, il n'y comprend absolument rien, et après avoir vécu la journée à Waterloo, il se demande s'il a vraiment participé à Waterloo. Voilà, parce que Waterloo, finalement, c'est des historiens qui racontent ça, mais les acteurs, en fait, ils ont été de la journée, ils ont été complètement dépassés, ils n'ont absolument rien compris à ce qui se passait. D'une certaine manière, Stendhal, là, il fait écho à quelque chose qui est quand même quelque chose que nous pouvons vivre, c'est-à-dire que nous nous sentons pris dans un processus dont nous pouvons éventuellement soupçonner qu'il y a une certaine organicité, mais quelque chose qui est au-delà de notre appréhension. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, il y a eu tendance, avec Balzac, à une littérature qui se rendait compte que le monde était devenu une extrême complexité, mais qui se sentait encore capable d'affronter cette complexité et d'en rendre compte. Et puis ensuite, plutôt une littérature qui prend acte de cette complexité et qui dit que ça la dépasse. Et à ce moment-là, qui va se concentrer simplement sur des destins individuels, sur les sentiments, les affects d'individus, mais qui ont renoncé finalement à comprendre véritablement le monde dans lequel ils sont.
Alors, justement, je voudrais revenir maintenant sur ce qui a été la première distinction que vous avez faite. Vous avez dit vous distinguez nombrification et numérisation, mais en même temps, il y a un lien profond entre les deux, puisque on s'est rendu compte récemment, vous savez, sur ce site, vous le mentionnez, careercast.com, que le métier, les deux métiers qui avaient les plus grandes perspectives rémunératrices et qui étaient les mieux payés de l'année 2015-2016, c'était en premier lieu data scientist, donc le scientifique qui s'intéresse aux data des ordinateurs, et de l'autre côté, le statisticien. Donc, finalement, le statisticien est mieux rémunéré que n'importe quel type. Voilà la classe sociale, voilà la plus élevée.
Oui, alors, tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que là, dans le classement de ces différentes professions, on tient compte de la rémunération, mais on tient compte aussi des perspectives d'embauche, etc. Il ne faut pas exagérer. Par exemple, si on est un joueur de basket professionnel, on gagne beaucoup plus qu'un data analyste ou un joueur de basket de la NBA, on gagne beaucoup plus qu'un data analyste ou un statisticien. Cela étant, pour devenir basketteur de NBA, il y a un nombre de places qui est extrêmement réduit.
Oui, oui.
Donc,
mais
en fait, bon, c'est...
Justement, c'est d'ailleurs une lecture statistique.
Oui, oui, oui.
Du primat du statisticien.
Voilà,
c'est une statistique
ça.
Qui fournit ça. Mais alors, justement, est-ce que ça n'est pas le signe qu'il y a un lien profond entre le développement de l'informatique et ce déploiement renouvelé de la statistique, puisque à partir du moment où on n'est plus dans la pensée, mais dans des algorithmes. Et on est dans des algorithmes précisément parce qu'il s'agit désormais de gérer des data, c'est-à-dire une somme d'informations qui sont des faits à chaque fois particuliers, collectés. Hein. Cette somme d'informations, aucun homme ne peut la traiter. Voilà, seules des machines peuvent le faire. Et dès lors, on n'est plus dans la pensée du pourquoi, la pensée causale, on n'est plus non plus même dans la pensée de la fonction, du comment, mais on est dans quelque chose qui ne peut être géré que statistiquement. C'est-à-dire que la statistique est finalement le cœur de l'algorithme. Et c'est désormais justement ce règne des algorithmes qui est le point ultime de l'empire de la statistique.
Oui, enfin, il faut distinguer l'informatique, un ordinateur n'est absolument pas une machine statistique. C'est une machine binaire qui marche sur des zéros. Enfin, c'est une machine binaire et elle n'est absolument pas statistique.
Je parle de l'algorithme, voilà.
Oui, mais l'algorithme lui-même, il n'est pas du tout statistique. Un algorithme, c'est si ceci, alors cela. Et donc, en fait, il y a toujours des bifurcations. Il n'y a pas du tout de statistiques. En revanche, l'informatique va donner des moyens à la statistique absolument extraordinaires. Et donc là, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas l'informatique qui assure le règne de la statistique. C'est un instrument qui va permettre le déploiement de la statistique. Mais l'informatique, elle, n'est pas statistique. Voilà. En revanche, la puissance informatique va faire deux choses. C'est d'une part, avec l'informatique, enfin c'est surtout avec le réseau Internet, ça va engendrer un nombre de données absolument colossal. En fait, pendant longtemps, ce qui a limité aussi le développement de la statistique, c'était que collecter des données, c'est pas... Justement, les données, d'ailleurs, sont un très mauvais mot, parce qu'elles n'étaient pas données du tout. Il fallait aller faudrait plutôt dire les récupérer, et c'est pas des données, quoi. Donc, on n'avait pas l'administration qu'il fallait pour collecter tout cela. Enfin, s'il fallait... c'était difficile. Alors que maintenant... À partir du moment où tout le monde se connecte sur Internet et que les serveurs gardent toute la mémoire de tout ce qu'on a fait sur Internet, évidemment, maintenant, on a une avalanche de données absolument gigantesques, tellement gigantesques qu'elles ne sont plus à la mesure humaine et que seules des machines informatiques peuvent les traiter. Et donc l'informatique, elle est aux deux bouts. Elle est celle qui collecte les données et c'est aussi elle qui permet de les traiter. Voilà, donc en fait, l'informatique en elle-même n'a rien de statistique, mais c'est elle qui permet de collecter les données massives, et d'autre part, ces données sont tellement massives qu'il n'y a que l'informatique pour les traiter.
Voilà. Merci Olivier Rey. Vous avez des projets d'ouvrages? Un autre sujet, après la question de la taille, de l'échelle, après la question de la statistique.
Actuellement, je travaille sur un ouvrage en commun avec Catherine Chalier, une réflexion sur le statut religieux de l'image, parlant de l'image d'un point de vue judaïque et moi parlant de l'image d'un point de vue chrétien.
Donc on vous recevra l'année prochaine sur ce sujet-là.
Eh bien, j'espère.
Voilà, merci.
Merci beaucoup.
C'était Entre nous soit dit avec Olivier Rey. Et désormais, la splendide, magnifique, silencieuse Claire Cabara à la technique. Merci et à bientôt.